BPM, élections législatives 2024.
Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale en direct consacrée au deuxième tour des élections législatives pour la 8e circonscription des Yvelines. Nous recevons ce matin à 8h et 8h30 les deux candidats qualifiés pour le second tour de dimanche. Je suis en compagnie de Cyril Naute, candidat du Rassemblement National, arrivé deuxième avec 30,97% des voix derrière Benjamin Lucas qui a recueilli 44,92% des votants. Cyril Naute, bonjour.
Bonjour.
Alors, que pensez-vous des résultats de ces législatives au niveau national ?
Alors, au niveau national, c'est une satisfaction puisque nous sommes arrivés en tête. Nous avons enregistré près de 11 millions de voix, ce qui n'était jamais arrivé au Rassemblement National. Et donc, nous sommes en bonne position pour obtenir la majorité absolue et donc gouverner la France à partir du 8 juillet.
Alors, c'est pas ce que les sondages disent. Hier, un sondage est tombé. Vous auriez entre 190 et 220 sièges.
Oui, c'est vrai. C'est pas ce que les sondages disent. Mais en même temps, si vous vous rappelez, il y a deux ans, pendant l'entre-deux-tours également, les sondages annonçaient au maximum une quarantaine de sièges. Nous en avons obtenu 89, soit plus du double. Donc, je ne dis pas qu'on va obtenir plus du double de ce qu'on annonce aujourd'hui pour le dimanche 7 juillet. Mais je pense que la majorité absolue est tout à fait possible, si bien sûr notre électorat se mobilise encore une fois, et même y compris peut-être quelques abstentionnistes qui ont pu faire confiance à Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle, puisqu'elle avait obtenu 13 millions de voix. Donc vous voyez, il y a encore 2 millions de voix à récupérer, et si ces gens-là se déplacent, je peux vous garantir que nous obtiendrons cette majorité absolue.
Alors, imaginons que vous ne l'ayez pas. Et que vous ayez une majorité relative. Est-ce que vous irez faire une coalition ?
Parce que
c'est la mode, là, aujourd'hui. Hier, on a commencé à parler de coalition.
Jordan Bardella a eu l'occasion de s'exprimer plusieurs fois à ce sujet. Il a effectivement indiqué que s'il manquait quelques sièges, on pouvait peut-être récupérer quelques députés divers droite ou LR qui ne nous auraient pas rejoints avant le premier tour. Mais si nous en manque 20, 30 ou 40, effectivement, nous n'irons pas à Matignon pour la bonne et simple raison que nous ne pourrons pas appliquer notre projet, notre programme. Donc il est hors de question d'entrer à Matignon si c'est pour y rester une semaine.
Mais si le président de la République vient vous voir quand même pour vous dire est-ce que vous voulez rentrer dans ce gouvernement ?
Non, c'est impossible. Jordan Bardella ne veut pas d'une ligne supplémentaire sur son curriculum vitae. Il accepte d'être Premier ministre s'il a une majorité absolue pour appliquer son programme. Si ce n'est pas le cas, ce sera à Emmanuel Macron d'en tirer toutes les conséquences, puisque c'est lui qui a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale dans ces conditions. On n'était pas contre l'idée de rendre la parole aux Français, de leur permettre de s'exprimer en votant. Mais en l'occurrence, le fait d'avoir choisi cette période et le délai le plus court pour rendre la parole aux Français était peut-être une mauvaise décision, en plus alors que les Jeux Olympiques arrivent très prochainement. Donc ce sera la responsabilité d'Emmanuel Macron si jamais il n'y avait pas de majorité absolue d'un groupe politique.
Alors on va revenir sur la 8e circonscription. Vous avez fait 30,97% des voix. Benjamin Lucas, 44,92. Vos réactions sur ces résultats ?
Bien écoutez, moi je m'attendais à ce que Benjamin Lucas soit en tête au soir du premier tour.
Pourquoi ?
Parce que, tout simplement, c'est le candidat d'Union de la Gauche. Il n'avait pas de concurrent à gauche, donc il a fait le plein de voix. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas ou très peu de réserve de voix. Ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas mon cas, puisque il y a à la fois les électeurs du bloc central, c'est-à-dire ceux qui ont choisi de voter pour Stéphane Champagne, maire UDI de Saint-Martin-la-Garenne.
Qui n'a pas donné de consigne de vote. Comme Alexis Costa.
Et Alexis Costa également, donc le candidat macroniste qui lui aussi a fait un score, somme toute, relativement significatif. Et vous voyez, ce bloc central représente 9000 voix. Benjamin Lucas a 6400 voix d'avance. S'il y a un nombre significatif de ces électeurs qui choisissent de voter pour Cyril Naute dimanche 7 juillet, je peux passer devant Benjamin Lucas. Je pense aussi que des abstentionnistes peuvent se mobiliser. Hein. Tous ceux, hein, j'en parlais tout à l'heure, ceux qui ont fait confiance à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle il y a 2 ans, s'ils se déplacent pour voter Cyril Nautre, je peux battre Benjamin Lucas. Donc voilà, j'ai trois messages, si vous voulez, de mobilisation ce matin pour vos auditeurs. Il y a les électeurs de Marine Le Pen qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier, les électeurs du Bloc central, s'ils veulent faire barrage à un éventuel gouvernement Mélenchon d'extrême gauche, ils doivent choisir le bulletin de vote Cyril Nautre. Et également les électeurs de gauche qui de toute façon n'ont que très peu de chances en réalité d'avoir une majorité absolue, avec en plus une majorité qui serait de toute façon hétérogène, puisqu'on a bien compris qu'il y avait des dissensions, on a bien compris que c'était une alliance de briques et de brocs et de circonstances, puisqu'entre la LFI, les écologistes, les socialistes qui sont beaucoup plus modérés, on voit en réalité qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes programmes.
Ah, c'est pas nouveau ça. Hein. Mitterrand l'avait fait.
Oui, c'est pas nouveau, mais on a vu.
Jospin aussi.
Malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Donc voilà, moi je pense qu'il faut un gouvernement stable et clair à la France pour mettre en œuvre une politique dans l'intérêt des Français. Et ce n'est pas une majorité de gauche qui sera capable de la donner, cette majorité claire. En plus, on voit que avec les nombreux désistements qu'il y a pu avoir ici ou là, la gauche en réalité est aussi en train de tenter de sauver Emmanuel Macron et ses candidats, y compris...
La gauche sauve Emmanuel Macron ?
Oui.
Selon vous ?
Oui, y compris Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui est candidate, je crois, dans le département du Calvados, et qui est en passe d'être sauvée grâce au désistement de la gauche, alors que c'est la première ministre qui a été la spécialiste du 49-3, et qui a méprisé les Français pendant des mois et des mois.
Alors, vous parlez des soutiens, des alliances, des désistements. On va revenir sur la 8e circonscription. Benjamin Lucas a de nombreux soutiens de droite, comme Pierre Bédier, président du département. Samy Damerji, maire de Mantes-la-Ville, qui l'a soutenu dès le premier tour. Et Djamel Nedjar, maire de Limay, qu'en pensez-vous ?
Bon, j'en pense que de toute façon, ce n'est pas très étonnant. Je ne suis pas étonné du comportement de Pierre Bédier qui se dit de droite et gaulliste, mais qui ne l'est plus depuis très longtemps et peut-être d'ailleurs qu'il ne l'a jamais été. J'ai d'ailleurs fait un tweet un peu humoristique il y a quelques jours pour indiquer que Pierre Bédier allait finir sa carrière politique encartée chez LFI avec peut-être un keffier en train de militer dans une ZAN avec un drapeau palestinien dans chaque main. Tout cela est ridicule et je pense qu'en réalité, il n'y a plus beaucoup d'Yvelinois qui écoutent Pierre Bédier. Pierre Bédier n'est plus considéré, il n'est plus respecté. Je rappelle qu'il a été chassé assez sèchement de son propre fief, Mantes-la-Jolie, il y a quelques mois, hein, puisque son candidat avait perdu contre Raphaël Cognet. Donc je crois que Pierre Bédier ferait mieux de se taire contre Samy Damerji. Je préfère même pas l'évoquer.
D'accord. Alors à Mantes-la-Ville, vous avez fait 29,7%. Benjamin Lucas en a fait 49,9. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec ces résultats, parce que vous êtes quand même le maire sortant de Mantes-la-Ville.
Oui, mais enfin ça fait quand même 4 ans que je ne suis plus au pouvoir à Mantes-la-Ville, hein, puisque Benjamin Lucas, je crois, a parlé d'un désaveu, c'est totalement ridicule. Ça fait 4 ans que je ne suis plus le maire de Mantes-la-Ville. En réalité, oui, Mantes-la-Ville est une ville historiquement de gauche. Ce résultat nous le rappelle, mais comme elle a fait un score très important également aux européennes le 9 juin. Et comme également Mélenchon était largement en tête aussi aux élections présidentielles de 2022, donc voilà, ça n'a rien à voir avec un désaveu contre l'ancien maire Cyril Nautre. D'ailleurs, quand on regarde les ratios sur la commune de Limay ou de Mantes-la-Jolie, on est exactement dans les mêmes proportions. Donc voilà, Mantes-la-Ville est une ville de gauche. C'est une élection qui est très nationale. Donc le fait que je sois l'ancien maire de Mantes-la-Ville n'a pas beaucoup joué dans cette élection.
Alors, puisqu'on est à Mantes-la-Ville, on va revenir sur un fait divers qui s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, où un jeune homme de 16 ans essuie des coups de feu en direction de sa tête. Il s'en sort miraculeusement. La montée de l'insécurité un peu à Mantes-la-Ville, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, j'en pense que c'est très grave, hein, et c'est pour ça que je voulais pas trop évoquer le cas de Samy Damerji, parce que au lieu de s'intéresser aux élections législatives, il ferait mieux de s'occuper de sa commune, parce qu'il y a des événements très graves qui sont en train de se produire. Donc effectivement, oui, il y a des...
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous étiez l'ancien maire.
Il y a des rivalités, il y a des rixes à Mantes-la-Ville depuis un certain temps. Mais en l'occurrence, on constate une augmentation de ces derniers depuis quelques mois, voire quelques années. Et on note qu'en réalité, la politique de Samy Damerji, la politique de paix sociale, où on distribue de tout et de n'importe quoi dans les quartiers, dans les cités, ne fonctionne pas. Il a souhaité embaucher une équipe de médiateurs. On voit que ça ne fonctionne pas. Moi-même, j'avais
arrêté de les financer.
Arrêté de financer, de subventionner notamment l'IFEP, une association spécialisée dans la médiation. Et j'ai pas eu autant de faits graves. Donc c'est bien la preuve que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est rétablir l'autorité, mais dans tous les secteurs de notre société.
Mais vous aviez fait une police municipale. Vous l'aviez augmentée à l'époque. Vous.
Oui, j'ai fait beaucoup pour améliorer les moyens d'intervention de la police municipale.
Ça marche pas terrible non plus.
Mais au-delà de ça, on sent bien que tout ne peut pas être réglé localement, évidemment, et c'est pour ça que je vais pas accabler plus que de raison Samy Damerji ou tous les maires. Mais en l'occurrence, les maires peuvent faire. Mais ils doivent être accompagnés au niveau national par des mesures qui renforcent l'autorité dans la rue, qui renforcent l'autorité à l'école et qui renforcent aussi l'autorité des policiers nationaux. Il faut
s'interroger. Ils n'ont pas assez d'autorité, les policiers nationaux, selon vous ?
Il faut leur donner des moyens matériels, mais aussi renforcer leur autorité, par exemple en leur accordant une présomption d'innocence en cas de mise en cause, puisqu'on sent bien que ces dernières années, notamment à gauche, il y a eu des mises en cause de la police nationale. On parle de violences policières, on parle de racisme systémique. Le problème, c'est que maintenant, c'est la police qui a peur des voyous et des caïds. On marche sur la tête. Ce devrait être le contraire. Nous, au Rassemblement National, nous sommes du côté des forces de l'ordre, évidemment, et aussi du côté des victimes. On n'est pas du côté des criminels et des voyous, comme certains élus que je ne nommerai pas. Donc voilà, il faut donner des moyens. Il faut aussi s'interroger sur la responsabilité des parents. Il faut s'interroger aussi sur la question de la responsabilité pénale des mineurs. Hein. Et c'est évidemment dans notre programme. Hein. Je pense que dès 16 ans, des mineurs peuvent être lourdement sanctionnés, voire être mis dans des établissements alors de basse intensité, hein, pas évidemment dans des prisons pour adultes, mais c'est également dans notre programme de développer ce type d'établissement pour pouvoir les sanctionner plus vite et avec peut-être des peines d'enfermement courtes, mais réelles, pour qu'elles soient dissuasives. Parce qu'en réalité, on est dans une impunité totale. C'est pour ça qu'ils se croient tout permis, les jeunes d'aujourd'hui, et dès le plus jeune âge. Et c'est ça qui est grave et triste, d'autant plus qu'ils possèdent des armes, y compris des armes à feu, et qu'ils n'hésitent pas à utiliser.
Alors, puisque vous parlez de prison, la transition est toute trouvée avec le projet de prison de Magnanville. Alors, j'étais assez étonné, hein. Donc vous venez de le dire, vous voulez serrer la vis et mettre plus de gens en prison. Et d'un autre côté, vous êtes contre ce projet.
Oui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois à ce sujet pour exprimer mon hostilité. Effectivement, ce n'est pas une contradiction. On veut construire des prisons, mais pas les construire n'importe où. Et en l'occurrence, ce projet est très mauvais. Il est très mauvais pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que voilà, les élus locaux n'ont jamais été concertés, et moi je pense qu'il y a une quand même en 2024, au 21e siècle, il peut y avoir plus de concertation entre l'État et les collectivités territoriales lorsqu'il s'agit de construire ce type de projet. Le lieu a été très mal choisi puisqu'il a la proximité immédiate d'établissements scolaires et de riverains.
Vous le mettriez où? Vous êtes député, demain vous êtes élu. Vous diriez, elle se construirait où?
Alors, il faudra évidemment fonctionner avec l'État. Alors, j'ose espérer que si je suis élu, ça veut dire que nous aurons très vraisemblablement une majorité absolue. Donc, je serai un interlocuteur privilégié pour discuter avec l'État pour justement déterminer un autre lieu dans les Yvelines ou peut-être ailleurs. Hein, puisque j'ai pu voir sur des affiches que Benjamin Lucas se positionnait comme le meilleur candidat contre la contre la prison de Magnanville, mais en réalité, il n'aura pas l'oreille du gouvernement, puisque il est fort peu probable et même totalement invraisemblable qu'il y ait une majorité nouveau Front populaire. Donc le seul candidat entre moi et Benjamin Lucas qui a la possibilité d'être l'interlocuteur d'un gouvernement de la même couleur politique, c'est moi. Donc j'invite les Magnanvillois à bien réfléchir avant de voter ce dimanche.
Mais alors vous la mettriez où ?
Alors plusieurs projets ont été plusieurs contre-projets ont été évoqués. Moi je n'ai pas étudié pour l'instant de très près ces autres projets, mais il est clair qu'une autre solution doit être trouvée, et c'est encore possible parce que les travaux n'ont pas commencé, donc il est encore temps de changer.
Allez, on va passer rapidement sur votre programme puisqu'il nous reste 4 minutes. Vous voulez donc remettre la France en ordre, ça on l'a bien compris. L'âge de la retraite alors ? 62 ans, oui, non ?
Oui. Oui, trois fois oui. Notre projet, contrairement à ce que disent les autres candidats et parfois certains observateurs, y compris Benjamin Lucas sur son tract, nous sommes pour l'abrogation de la loi Macron sur la retraite. Donc oui, on revient à 62 ans, c'est clair et net. Et notre priorité, c'est bien sûr la question des carrières longues, c'est-à-dire tous les Français qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans pourront partir à 60 ans s'ils ont bien sûr
leurs
40 annuités.
Alors, soutenir le pouvoir d'achat, le sujet numéro un des Français.
Oui, c'est une de nos priorités, hein, parmi celles que nous avons identifiées. Donc, la première mesure que nous mettrions en œuvre dès le mois de juillet, c'est la baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques, c'est-à-dire les carburants, le fuel, l'électricité et le gaz. Voilà, et ça, c'est...
Vous passeriez de 20 à 5,5, c'est ça ?
C'est ça. Donc ça, c'est une amélioration du pouvoir d'achat totalement immédiate pour tous les Français.
D'accord. Vous voulez, évidemment, un sujet qui vous passionne, la submersion migratoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pour avoir moins de submersion migratoire ?
Bon, il y a évidemment beaucoup de choses à faire.
On a entendu parler de double frontière, de remettre des frontières, mais c'est pas possible, ça ?
Bien sûr que si, c'est possible. Bon, ça a fonctionné. La France avait auparavant des frontières et elle peut en retrouver. Mais au-delà de la question des frontières, nous sommes pour la suppression du droit du sol, c'est-à-dire pour éviter que...
Ça n'existe pas déjà, ça ?
Il en a été question, mais uniquement sur le territoire de Mayotte, ce qui pose d'ailleurs des questions en termes d'égalité. Nous sommes pour l'égalité totale et l'indivisibilité de la République. Donc, si on supprime le droit du sol à Mayotte, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas ailleurs. Et effectivement, cette suppression permet d'éviter que des jeunes qui sont nés sur le territoire français mais qui ne mériteraient pas de devenir français parce qu'ils ont commis des crimes et des délits graves, hein, puisqu'aujourd'hui on est quasiment dans une acquisition quasi automatique de la nationalité française pour les gens qui sont nés sur le sol français. Donc nous souhaitons revenir sur ça. Nous souhaitons également remettre le délit de séjour irrégulier, puisque voilà, nous souhaitons que les étrangers qui sont arrivés de manière clandestine soient expulsés. Nous souhaitons aussi...
Non, ça, c'est compliqué, hein. Il faut que le pays d'en face soit d'accord. Hein.
Il faut qu'il soit d'accord, mais...
Il y a des pays qui sont pas forcément d'accord.
Oui, mais il y a des moyens de négociation, voire de pression pour contraindre ces pays à récupérer leurs ressortissants. Il y a aucune raison que la France se laisse faire et accueille des criminels ou des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Voilà, nous voulons aussi remplacer l'AME pour une aide d'urgence vitale. Il y a toute une série de mesures, si vous voulez, qui vont faire que la France sera beaucoup moins attractive pour tous ces étrangers. Voilà, il y a aussi toutes les mesures qui concernent la priorité nationale, pour le logement social, par exemple.
Ah ben alors, pour les emplois binationaux, là, vous pouvez nous expliquer un peu ?
Non, mais ça a été une petite polémique suite peut-être à des défauts d'expression de certains de nos députés. Il faut reconnaître aussi quand on se trompe. Voilà, il y a une question, mais qui concerne très très peu d'emplois, très très sensible. Évidemment, tout le monde sera d'accord pour qu'on ne confie pas la responsabilité d'une centrale nucléaire, par exemple, à un franco-russe. Moi, je n'ai rien contre les franco-russes. Je ne veux pas les stigmatiser ce matin à votre micro. Mais en l'occurrence, vu le contexte actuel, il n'est peut-être pas pertinent de confier les services secrets français ou la direction d'une centrale nucléaire à un franco-russe. Mais ça concerne une dizaine ou une cinquantaine d'emplois sensibles. Voilà. Si un binational est un patriote, et en accord avec notre projet, avec notre programme, il peut tout à fait être ministre. Ça ne me poserait absolument aucun problème. Évidemment, il y a eu cette polémique avec un de nos députés qui a cité Najat Vallaud-Belkacem, mais le problème de Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas qu'elle soit d'origine marocaine ou quelle est la binationalité franco-marocaine, c'est qu'elle soit une femme de gauche qui aime une politique horrible à l'éducation nationale. Moi, c'est ça que je lui reproche à Madame Belkacem. C'est pas ses origines, évidemment. Les franco-marocains patriotes qui sont en accord avec nous sont les bienvenus et d'ailleurs je les invite à voter pour moi ce dimanche.
Allez, pour conclure, que pourriez-vous dire aux électeurs qui nous écoutent ce matin ?
Bah, de pas se laisser impressionner par ces pseudo-sondages ou par les discours horribles avec le retour de l'extrême droite ou de je ne sais quoi, des nazis, etc. Ça c'est... on cherche à vous faire peur. Chers électeurs du Montoir, je m'adresse directement à vous. N'hésitez pas à nous faire confiance. Tous les déficits, le déclin de la France, l'endettement, les problèmes de sécurité, d'immigration, les problèmes de pouvoir d'achat, tout cela, ce n'est pas le Rassemblement National qui en est responsable. Ce sont les différents gouvernants qui se sont succédés depuis 40 ans, qui n'ont pas su ou pas pu trouver les solutions les meilleures pour améliorer votre vie au quotidien. Nous avons les solutions et c'est la raison pour laquelle vous devez nous faire confiance.
Cyril Lhôte, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.
Cette émission spéciale élection législative est à présent terminée. Elle sera rediffusée à midi et 18h. Vous pouvez la retrouver sur le podcast de notre site internet bpmlaradio.com, rubrique législative 2024. Dans quelques minutes, à 8h30, nous recevrons l'autre candidat qualifié au second tour de la 8e circonscription des Yvelines, Benjamin Lucas, candidat pour le nouveau Front Populaire. Ne bougez pas, on revient dans quelques minutes sur BPM.
BPM, élection législative 2024.
Juste après la pub, on prépare les tubes. On prépare les tubes.
BPM, élection législative 2024. Le deuxième tour des élections législatives aura lieu le 7 juillet prochain. À cette occasion, BPM